C'est bon.
La tradition du goût.
Chabichou du Poitou.
Ça sent bon. Ça rappelle la ferme, ça rappelle vraiment ce qu'on a connu, quoi.
Évidemment, si on parle du Poitou, on parle forcément du broyé du Poitou.
Je refuse de modifier ma recette sous prétexte qu'à un moment, le beurre est trop cher, la farine est trop chère, moins de gras, moins de ceci, moins de cela. Moi, je refuse tout ça.
Le Centre Poitou, l'établissement est tenu par la même famille depuis 1870. À 29 ans et déjà un parcours chez plusieurs chefs étoilés, Mathias Martin est revenu chez lui il y a 3 ans. Depuis, il s'attache à cuisiner du bio local.
Service, s'il vous plaît.
On va déguster. Dresse le couvert à Poitiers. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Nous sommes dans les salons de Blossac, plein à craquer, en plein centre-ville de Poitiers. Et nous avons bien l'intention de mieux faire connaître, alors à vous évidemment, cher public, mais certainement à nos auditeurs dans toute la France, le patrimoine culinaire du Poitou. Et on va voir que ce patrimoine bouge encore, il est bien vivant. Nos 3 invités vont nous le prouver. Je vous les présente. Tout d'abord, Mathias Martin, bonjour.
Bonjour.
Chef de l'auberge du Centre Poitou à Coulombiers, on est à 17 km de Poitiers, c'est bien cela ?
Oui, c'est ça.
Et à tout juste 30 ans, vous incarnez, on va le voir, la 5e génération au fourneau de cette belle auberge familiale. Comme il n'en existe plus beaucoup en France d'ailleurs, on a passé un moment absolument délicieux chez vous. Vous allez nous montrer que vous pratiquez une cuisine engagée, inspirée et inspirée par les traditions, mais aussi les produits locaux. Et vous n'y allez pas de main morte, hein. Vous êtes extrêmement scrupuleux dans vraiment le choix de vos produits. Il sera notamment question de faisselle.
Faisselle de chèvre.
Et broyé du Poitou.
Oui, broyé du Poitou, les produits locaux.
On va voir ça avec vous. En parlant de spécialité fromagère, on parlait faisselle. Nous avons Philippe Massé, bonjour.
Bonjour.
Un paysan fromager à la tête avec votre associé Christophe Bourdon du Mélélie, c'est bien ça, hein?
Mélélie, c'est ça, oui.
Une ferme bio à Messé, on n'est pas très loin de Poitiers.
On est dans le sud de Sèvres, à 45 km de Poitiers.
Et on va parler avec vous du Poitou, et on va voir que le Poitou est un formidable plateau de fromage. Chabichou, chabi, motet sur feuille, chabichou, chabi, ouais, vous allez nous expliquer ces nuances de taille.
Ces différences.
Dans cette grande famille des fromages de chèvre, et on va évidemment les déguster avec vous, on en est ravis d'avance. Et enfin, Alain Garec, bonjour.
Bonjour.
Alors, Alain Garec, comment vous présenter ? Peut-être bien comme un ancien avocat qui plaide désormais pour le biscuit le plus fameux du Poitou. Alors, c'est très facile, on l'a cité, c'est le... Oui. Eh oui, le broyé du Poitou. Eh bien, vous venez de reprendre Alain Garec avec votre associé Gouliber.
C'est ça.
Une biscuiterie fondée en 1976 quand même.
Exactement.
On rend hommage à la personne qu'on entendait dans l'accroche.
Obligatoirement, quand on parle de Gouliber, on parle d'elle, de Brigitte Arnoboué. Et puis on a repris cette entreprise en lui promettant de continuer l'aventure, en gardant la qualité des produits surtout.
Et on va voir que Gouliber bénéficie d'une très belle notoriété, à la fois localement, mais également au-delà des frontières du Poitou. Et on le verra pourquoi, parce que d'abord, c'est une entreprise du patrimoine vivant et on va voir que votre Exactement. Aventure, effectivement, elle n'est pas seulement entrepreneuriale, elle est aussi patrimoniale et c'est ça qui fait plaisir. Ils font partie de la bande dont on va déguster et ils sont du voyage. Estherelle Payani, Dominique Hutin, bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour Poitiers.
Estherelle.
Moi, je pense qu'à Poitiers, tout est bon dans le dragon.
Tout est bon dans le dragon. Est-ce qu'il y en a qui ont la solution à cette énigme? Peut-être pas. Ce sera dans le courant de cette émission. Et Dominique?
Moi, grâce au département de la Vienne, les vins de la Vienne, je vais entrer en résistance et vous allez voir que je n'ai pas fait les choses à Poitiers. À moitié.
Ouais. C'est du très haut niveau pour commencer. Les recettes de nos invités, nos coups de cœur, nos infos pratiques, le podcast de l'émission ainsi que le podcast de toutes les chroniques sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Le Poitou par tous les bouts et tous les goûts, c'est maintenant.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Delerue.
Qu'est-ce que Poitiers et le Poitou ont dans le ventre ? Eh bien, on va justement se poser la question. La région qui a enfanté l'un des plus grands chefs, l'un des plus grands cuisiniers de l'histoire de la cuisine française, je veux évidemment parler de Joël Robuchon. Eh bien, cette région-là, cette ville-là, ont forcément des choses à nous faire goûter. Alors, je vous propose un petit tour de table. Chacun de nos invités, peut-être bien aussi Estherelle, si vous aviez envie de glisser à l'oreille de notre public, ici à Poitiers, mais également à nos auditeurs, un petit coup de cœur comestible. Un produit, une adresse. On commence avec Mathias Martin.
Mon coup de cœur, c'est mon producteur avec lequel je travaille depuis bientôt 4 ans. C'est Bruno Savatier, un maraîcher bio, entièrement bio, situé à Rouillé.
Mm-hmm. Qui connaît dans la salle ? Ah, il y a des mains qui se lèvent quand même.
Et donc voilà, c'est vraiment, c'est pas que un producteur, c'est quelqu'un, on échange beaucoup d'informations, on parle sur les légumes. Moi, je fais découvrir certains légumes que j'ai travaillés, lui qui l'a travaillé aussi. Donc comme ça, on peut se compléter et voilà, c'est une aventure aussi humaine, autre qu'un dépôt de légumes.
On a eu la chance de déguster chez vous les premiers légumes racines, le panais. Il y avait également du céleri rave, il y avait de la pomme de terre. Tous ces légumes-là venaient de chez votre maraîcher ?
Oui, entièrement.
Bruno Savatier, oui. Route du Grand Breuil à Rouillé.
Sur le lieu-dit du Grand Breuil, sur la commune de Rouillé. Oui.
Et il est en vente directe ?
Non, parce qu'il fait partie de la MAP.
D'accord.
Il fait des paniers pour l'association. Il faut rentrer dans l'association, mais...
Mais on peut se procurer assez facilement ces légumes. Merci beaucoup. Philippe Massé, un coup de chapeau. Un restaurant d'insertion à Poitiers.
Donc c'est le restaurant de l'île Jouteau à Poitiers, donc à 2 pas du centre-ville. Mmh. Et je connais particulièrement son chef qui est Guido Gilberti, qui adore travailler avec des produits frais, avec des produits locaux aussi, des produits bio dès qu'il le peut. Donc une belle aventure avec des femmes et des hommes qui travaillent en insertion et un super cadre et des bons produits.
Il y a une auditrice là qui se cache mais qui levait la main.
Bonjour, c'était juste pour dire que c'est vraiment un endroit super. Le cadre est exceptionnel au bord du Clain et en plus on mange très très bien.
Vous le recommandez donc ?
Chaudement.
Très bien, et c'est ouvert aussi l'hiver ?
Non.
Pas seulement au beau jour ? Ah non, c'est fermé ?
Bah non, parce qu'en fait, la plupart des c'est sur une barge et la plupart des tables sont en extérieur. Donc
d'accord.
Du coup, l'hiver, il y a quand même beaucoup moins de place et je crois qu'il vient de fermer. Mais j'étais encore au mois de septembre.
Donc on attendra peut-être le printemps prochain, mais merci beaucoup en tout cas pour ce restaurant d'insertion, l'île Jouteau, c'est bien ça ?
C'est ça.
À Poitiers, merci beaucoup Philippe Massé. Alain Garec, il paraît que le Poitou pourrait être aussi, pas seulement une terre de biscuits, mais une terre de bière.
Et ouais, moi j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Pascal Pouilly, qui est à Neuville-du-Poitou, qui exploite une microbrasserie, la brasserie de Bellefoy. Je l'ai rencontré, on a échangé longuement, c'est quelqu'un qui travaille bien, qui travaille en sélectionnant ses produits, qui travaille sur le patrimoine aussi du Poitou. Il a fait des gammes autour des grandes batailles du Poitou, j'ai trouvé que c'était plutôt pertinent. Les produits sont top, le bonhomme est top, donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil ce matin.
Et il paraît qu'il y a dans cette micro-brasserie également une gamme de bières
biologiques. Il est en train de développer une gamme bio qui fonctionne plutôt bien. C'est pas simple à faire non plus, mais en tout cas, il s'y emploie comme il faut.
Vous nous en rappelez le nom ?
La brasserie de Bellefoy à Neuville-de-Poitou.
Très bien, merci beaucoup Alain Garec. On finit avec Estherelle qui a aussi peut-être bien un petit coup de cœur.
Ici, c'était difficile. J'ai hésité entre le fromage et le dessert.
Oui.
Donc, j'ai choisi le tourteau fromager, évidemment. un tourteau fromager artisanal.
Les deux à la fois, c'est ça ?
Voilà, ça fait deux en un. De la pâtisserie de l'Artigot, que j'ai déniché à la crèmerie des Halles de Didier Bouffet. C'est donc une spécialité vraiment poitevine, avec une croûte noire.
Oui.
Certains diront carbonisée, que certains enlèvent, mais qu'il faut évidemment manger, qui cache une mie super moelleuse au fromage de chèvre. Voilà. Et c'est vraiment son signe distinctif, c'est cette croûte. Là, c'est particulièrement équilibré entre la pâte brisée du fond, le moelleux et puis la croûte vraiment toute fine.
Interdiction de dire cheesecake poitevin ?
Vous voyez les réactions du public. Hein,
okay, pardon.
Oh là là,
attention, une pluie de tomates dans un instant.
C'est pas la saison.
Sur l'équipe dont on va déguster le tourteau fromager, évidemment.
De la pâtisserie de l'Artigot à la crèmerie des Halles de Didier Buffet.
Eh bien voilà, ça nous Buffet, en fait pardon. Des coups de cœur. Preuve qu'on a l'estomac bien accroché, évidemment, dans la région. Dans un instant, eh bien, un jeune chef trentenaire nous entraîne dans l'aventure de son auberge familiale. Ça, c'est juste après Thérapie. Le nouveau titre de M choisi par notre programmateur musical Djoubaka. Belle journée sur France Inter.
Je ne reconnais plus la maison, je ne retrouve plus la raison. Où est passée ma thérapie? J'ai beau te chercher dans le miroir, réouvrir au milieu un tiroir. Où est passée ma thérapie? J'entends au loin le chant de ton âme, une voix qui me dit: souris à la vie quand tu croises le bonheur. Si vite arrivé, si vite reparti. Je bouge à la souris. absence. La vie m'apprend et je prends conscience que tu es pourtant la juste ici. Si près de moi, quand je me dis oui chaque fois.
À déguster Cuisine Poitiers. Merci beaucoup d'être venus si nombreux dans les salons de Blossac où nous avons dressé le couvert avec nos invités. Est-ce que vous voulez savoir où nous étions hier soir?
Oui.
Nous avons fait le pèlerinage de Coulombiers avec l'équipe dont on va déguster. Vous avez quand même de la chance d'avoir cette adresse pas très loin de chez vous. On est à 17 km au sud-ouest de la ville, en direction du parc naturel régional du Marais Poitevin. C'est bien cela. Le Futuroscope n'est pas très loin non plus. Il est affairé, le chef. Il ne nous entend pas du tout parce qu'il est concentré sur une spécialité qu'il est en train de préparer et qui circule déjà dans le public dont on va déguster. Donc, je disais qu'on n'était pas très loin du Marais Poitevin.
Oui, on a une soixantaine de kilomètres.
Vous qui aimez beaucoup la nature.
Oui.
Vous nous l'avez prouvé d'ailleurs hier.
Avec tous les champignons, bah là, ça bat son plein.
Panier incroyable de champignons. Ouais, ce jeune homme de 30 ans était allé courir la forêt pour ramasser. Boletus edulis, autrement dit le cèpe,
oui.
Mais également
pied de mouton, amanite des Césars, chanterelle, girole, coulmel.
Et c'est une activité que vous pratiquez quasiment quotidiennement?
Quand la saison est...
C'est pas uniquement quand les journalistes parisiens débarquent?
Non, non, non. Bon, là, le bobo panier avec les petites feuilles, si, mais...
Il paraît que c'est une très très belle saison à champignons cette année. Ouais, ça a commencé tard. Mais là, maintenant, c'est parti, et pour le coup, ça pousse comme des champignons, ah, c'est le cas de le dire, absolument partout.
Cette année, c'est vraiment une grosse année.
Et vous faites quoi avec ces champignons?
On va faire plusieurs choses, là, comme vous avez pu le déguster hier soir, on fait un petit œuf parfait avec deux textures avec le cèpe, en cru, en crémeux. Après, vous avez dégusté aussi les girolles, les chanterelles et les pieds de mouton, avec une petite mousseline de céleri rave et un jus de cochon très corsé.
Ouais, ça, c'était
ça donne
magnifique.
Faim, hein.
Avec beaucoup, beaucoup de sapidité. Non, mais on disait vraiment que les Poitevins avaient de la chance de vous avoir, car nous avons vécu une expérience totalement hors du temps, dans une auberge qui a cette atmosphère un peu à l'ancienne, avec un feu qui crépite. Il y a presque les meubles de famille qui sentent la cire d'abeille. Il y a quelque chose de cette douce France aussi que l'on aime bien, évidemment. Et pour cause, l'histoire de cette auberge, on parle donc évidemment de l'auberge du Centre Poitou, remonte à...
1870.
Waouh. Cinq générations, vous cinq incarnez générations. La cinquième?
J'incarne la cinquième.
Racontez-nous un peu l'histoire de cette adresse qui était un ancien relais de poste.
Oui, c'est ça, c'était mon arrière-arrière-grand-père qui a acheté ce relais de poste. Et donc voilà, c'était sur le chemin de Saint-Jacques, donc on accueillait aussi tous les pèlerins. Et voilà, au fil des générations, ça s'est développé. Et quand mes parents ont repris il y a 34 ans, ils ont développé une cuisine un petit peu plus gastronomique avec l'arrivée d'un chef qui avait fait des établissements étoilés. Donc voilà, ils ont commencé à rentrer un petit peu dans un peu plus gastronomique. Et avec, pareil, la recherche de producteurs aussi locaux, de bons produits et du coin. Moi, après, j'ai repris les cuisines après le départ en retraite de ce chef qui était là pendant 30 années.
C'est ça, parce que le Mathias Martin qui a fait son tour de France dans pas mal de maisons étoilées, notamment dans les Landes.
Oui, dans les Landes, chez les frères Cousseau, au relais de la Poste,
c'est
à Magesque.
Ouais, très belle adresse. Vous avez dû y apprendre de belles techniques, les sauces, les jus.
Voilà, tout le classicisme de la cuisine française, les jus, les produits du terroir des Landes, du Pays Basque, le gibier, les champignons, le poisson.
Et un jour, alors ça c'est France, la maman de Mathias Martin qui nous a servi hier, parce qu'elle est encore la matrone de cette
auberge du centre Poitou, nous a raconté qu'un jour le fiston, fils aîné d'une fratrie de trois garçons, l'appelle en disant « Je voudrais bien revenir au bercail ».
Oui, c'est ça. Enfin, je comptais pas revenir dans l'immédiat. J'en avais parlé un peu vaguement. Et du coup, le fait du départ en retraite du chef a fait que voilà, c'était l'opportunité. Et ça s'est joué comme ça.
Et c'est une belle histoire de famille, puisqu'il faut préciser aussi qu'en ce moment, vous travaillez avec votre petit frère Martial qui est en salle.
Oui.
Et par ailleurs, votre dernier petit frère, donc le cadet, est dans la lumière en ce moment.
Les chefs pâtissiers chez Johan Comte à Annecy.
Deux étoiles Michelin.
Oui, et vient d'être élu chef pâtissier de l'année par le Goemio.
On peut l'applaudir. Ouais. Max Martin, 22 ans, pâtissier de l'année avec Jessica Préalpato qui est elle-même chef pâtissière du Plaza Athénée, 3 étoiles à Paris, donc chef ex aequo. On peut vraiment le féliciter. Est-ce qu'un jour on peut imaginer qu'il y a l'aventure des frères Martin à Coulombier?
J'espère qu'après son petit tour, il est encore jeune, donc je pense qu'il a encore le temps de former sa bosse, comme on dit, et de revenir après dans le Poitou.
Estherelle?
Ça peut être comme les frères Roca quand même, hein. Oui. C'est le même trio.
Ça pourrait être, exactement, ça pourrait être les frères Roca de Gérone en Espagne, le même trio, trois frères à la tête d'une adresse, et bien en tout cas vous avez tout l'instrument pour, ça c'est sûr. Alors quand on s'est attablé chez vous, vous nous avez un peu refroidi en début de repas, cher Mathias, en nous disant « Oh là là, pour les spécialités poitevines, on n'est pas vraiment dans la bonne saison. La truffe n'a pas encore commencé, ça il faut attendre le 15 décembre. » Oui, car on le dit à toute la France, le Poitou est aussi une terre trufficole, une terre de truffes. Il n'y a pas que le Périgord, il n'y a pas que le Sud-Est, Riche-Ranche, il y a même le Berry, mais enfin il y a le Poitou.
Oui, le Poitou est un gros département qui fait de la bonne truffe, la truffe noire, Mélanosporum. Voilà, on a travaillé avec un producteur... près de la mode s'intéresse depuis une vingtaine d'années, Monsieur Lacroix. On a tout le temps des truffes exceptionnelles à partir du 15 décembre jusqu'au 15 février. On fait un menu tout à la truffe, de l'entrée au dessert, tout à la truffe pendant la saison.
Très bien. Et puis si on était venu au printemps, on aurait eu la chance de goûter aussi des spécialités poitevines tout à fait emblématiques. On les cite.
Le chevreau à l'ail vert.
Le
chevreau à l'ail vert.
Le chevreau à l'ail vert. Tout le monde connaît. Moi, j'ai eu la chance de le goûter dans une vie antérieure, ma vie de journaliste, il y a quelques années à Poitiers, au printemps, je m'étais littéralement régalé.
Puis il y a le farci poids de vin aussi. Oui. Voilà, on va dire que c'est un pâté végétal, avec du lard, mais voilà, il y a beaucoup de végétaux. un petit peu de lard, un petit peu.
Et ce qu'on aime aussi à l'auberge du centre Poitou, c'est que même s'il y a évidemment une ambition gastronomique, quoi qu'elle est assez bien tenue, car on peut vraiment se faire plaisir dans un menu tout à fait ambitieux autour de 30 euros, c'est quand même une jolie performance par rapport à la qualité des produits que vous choisissez. Il y a également évidemment cette partie bistrot, plus populaire, cuisine du quotidien, avec des mijotages, avec un menu ça commence à 12 euros.
Oui, c'est ça, un menu à 12 euros, avec un plat unique qui change tous les jours. Style blanquet, des bourguignons, langue de bœuf, enfin des choses.
Il paraît qu'on n'appelle pas ça bourguignon ici. Parce que moi, j'ai vu sur votre ardoise, joue de bœuf confite avec du vin rouge à votre avis, Dominique?
Au hasard, du Haut-Poitou.
Bravo. Vous nous l'avez pas apporté, on n'avait pas de quoi la réchauffer. En trois phrases, là, à la maison, on va acheter des joues de bœuf. On a un peu de vin rouge, éventuellement un vin du Haut-Poitou. Comment on s'y prend, Mathias Martin?
Voilà, on va faire réduire notre vin rouge avec des aromates.
On commence comme ça?
Oui, on va gagner du temps, on va concentrer le vin. Pendant ce temps, on va pouvoir parer le...
Aromates laurier.
Laurier, thym, ail, un peu ce qu'on aime, quoi. Mais, après, on va pouvoir parer la joue de bœuf, la saisir. La colorer et
en dehors du
liquide et on va la singer.
Singer. Non mais on a affaire à un public évidemment d'experts. Singer, c'est fariner.
Voilà.
Très joli verbe du premier groupe de la langue française.
Après on y ajoute une petite garniture aromatique et on va mouiller avec le vin rouge qui est réduit. Ensuite avec un fond de veau. Qu'on aura bien sûr fait la veille. Et voilà, on va laisser mijoter entre 2 et 4 heures au four à 180 degrés.
Vous mettez quelques légumes?
Oui, après on peut mettre des petits légumes racines, des petits navets, des petites carottes, pommes de terre.
Bonne nouvelle, la recette est en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Quelqu'un veut intervenir? Bonjour madame, vous vous appelez comment?
Oui, bonjour, je m'appelle Arlette. Je disais simplement que ça me rappelait les plats mijotés de ma grand-mère qu'elle mettait dans les cendres de la cheminée et ça durait la journée. Voilà, c'est tout.
C'était quel plat qui...
Eh bien, des plats mijotés comme ça, des bœufs en daube et des choses de ce genre, du lapin en civet, enfin tout. Tout ce qu'il y avait dans la ferme.
Merci beaucoup. Merci Arlette. pour ces bons souvenirs qui font chaud au cœur. Alors, on en vient à une spécialité fromagère, puisqu'évidemment, on est dans le Poitou. Fromage de chèvre, c'est tout à fait emblématique de cette région, avec ses gras pâturages tout autour de la ville de Poitiers, dans la région du Poitou. Il est question de faisselle avec vous, Mathias Martin. On vous a demandé une recette assez simple à faire à la maison, avec un produit tout à fait identitaire. Parlez-nous d'abord de cette faisselle, dont on va demander d'ailleurs à Philippe Massé une définition. Faisselle, comment on pourrait définir cette spécialité fromagère?
Donc la faisselle, c'est un lait caillé 24 ou 36 heures qu'on égoutte dans un récipient qu'on appelle la faisselle. Historiquement, les faisselles étaient en terre, en fer, en bois. Aujourd'hui, elles sont en plastique, tout simplement par rapport à des histoires de nettoyage, d'hygiène. Donc la faisselle, voilà, c'est le fromage blanc égoutté du jour.
Qui porte le nom donc de son moule.
Voilà,
c'est
tout à fait.
C'est assez pratique. Est-ce que vous en faites dans votre ferme bio?
Tous les jours, on produit de la faisselle qu'on présente au marché immédiatement. Enfin, on moule vers style 8 heures le matin pour un marché qui a lieu à 9 et on vend ces faisselles qui sont plus ou moins égouttées suivant le goût de la personne, en fait.
La faisselle du Méléli, on peut donc la trouver aussi.
Certaines personnes veulent en patois. Alors, je sais pas, ça doit être du patois poitevin qu'au beurre jute. Voilà. Qu'au beurre jute. C'est le jus qui passe par-dessus le moule, enfin par-dessus le récipient, quoi.
D'accord. Voilà. Très bien. Bah, en tout cas, la faisselle de Mathias Martin ne vient pas de la ferme du Méléli, mais elle est quand même fermière et de très bonne qualité.
Oui, c'est la ferme de la Briouse à Sancey.
Et donc voilà, on n'est pas très loin de Poitiers.
À une quinzaine de kilomètres. Et voilà, c'est un agriculteur qui fait ses céréales, puis qui élève ses chèvres, et donc du coup qui fait ses faisselles et quelques fromages.
Quelques tours de main pour transformer cette faisselle à la maison avec des produits locaux, c'était l'enjeu et le défi que vous relevez. Et pendant que Philippe Massel déguste cette faisselle, non, vous en avez pas? Attendez, vous savez ce qui s'est passé? C'est Dominique Hutin qui a chopé l'assiette de Philippe Massel. Ah non, elle est là, pardon.
Oui. J'aime bien faire la faisselle, c'est pas de ma faute.
Oh là là.
On va dire que c'est encore le service.
J'ai commencé à goûter la faisselle, elle est formidable.
Eh bien, notre chef Mathias Martin nous en explique la recette. C'est une recette sucrée, précisons-le.
Oui, c'est une recette sucrée. Bon, là, c'est avec des produits qui matchent très bien. Donc là, on vous a fait déguster tout simplement la faisselle qui est égouttée avec du miel de pays et des noix.
Un miel toute fleur?
Oui, miel de fleur et des noix juste torréfiées.
Et des noix du pays?
Oui.
Que vous torréfiez un peu à la poêle à sec?
Oui, exactement.
Et vous mélangez légèrement?
Non, je mélange pas, je pose. C'est le client qui mélange.
Alors ça, c'est très simple à faire à la maison, évidemment. Et puis si on est un peu plus technique, on peut aller un tout petit peu plus loin, en lui ajoutant par exemple une petite tuile.
Voilà, on a fait une petite tuile au miel pour le côté croustillant du plat, et on a fait sécher du chèvre qu'on a mis en poudre, et on vient saupoudrer cette tuile. Et on vient mettre une glace faisselle-miel dessus.
Oui, glace faisselle-miel, ouais. Absolument incroyable. Comment on fait cette petite tuile?
Donc là, c'est simple, hein. C'est des jaunes, du sucre glace. C'est un mélange, vraiment on mélange tout ensemble, que ce soit homogène. On étale sur la plaque et à 180 degrés au four.
Très bien. Et la recette, là encore, est sur notre site internet, évidemment. Je crois qu'un auditeur ou une auditrice a bien aimé dans notre public. Bonjour madame,
oui,
vous appelez comment?
Oui, bonjour, je me prénomme Aimée. Je viens de déguster cette faisselle et je trouve que le mariage et l'ensemble avec le miel, le petit craquant et la noix, en bouche, c'est un régal. Moi qui suis pas une chèvre, non, je blague. Je voulais dire, moi, c'est pas ma priorité, le fromage de chèvre, mais alors là, c'est à déguster et c'est vraiment un délice. Voilà, c'était mon impression et je tenais à remercier.
Merci beaucoup, mais quand on vous disait qu'il avait du talent, ce Mathias Martin... il faut vraiment aller s'attabler dans son auberge du centre Poitou. Transition toute faite vers les fromages de chèvre de Philippe Massé. Vous êtes donc poitevin, paysan fromager quand même depuis...
Depuis 1998.
Oui. Vous avez la bouche pleine de la faisselle?
Tout à fait.
Elle vous plaît?
Du petit croquant dessus là. C'est formidable. Donc oui, je suis installé depuis 1998 avec 32 chèvres au départ sur... pratiquement pas d'hectares. Il y en avait à peine un à l'époque. Aujourd'hui, on travaille à deux avec Christophe. On bosse en agriculture biologique. Là, on travaille sur 29 hectares. On a 65 chèvres, quelques brebis laitières aussi, et puis quelques vaches à veau, voilà, pour du veau sous la mer. Donc, on travaille avec le Conservatoire régional des espaces naturels de Poitou-Charentes. Donc, pour la partie biodiversité sauvage, et aussi, on travaille avec le CREGEN, Conservatoire des ressources génétiques du Grand Ouest, pour la partie chef poitevine et vache maraîchine.
Et quand je vous ai demandé, dans cette belle aventure paysanne, si vous fabriquiez du chabichou, le fromage emblématique de la région. Vous m'avez répondu non, pas tout à fait. Alors, je crois qu'ici, on connaît un peu le rapport de force entre cette grande appellation d'origine protégée qui est le Chabichou, hein, qui est une appellation d'origine protégée, je crois, depuis 1990.
Oui, c'est ça.
Et un peu des résistants du fromage fermier, plus artisanal, au lait cru.
Tout à fait, oui.
Il y a donc une nuance entre ces deux fromages cousins, racontez-nous.
Donc jusqu'à présent, le Chabichou, il était accepté que le lait soit pasteurisé ou non. Aujourd'hui, c'est-à-dire à échéance de 3 ans, je pense, le Chabichou sera produit uniquement au lait cru. Voilà, donc là, le dossier est parti à l'Europe depuis l'an dernier, avec donc l'autonomie alimentaire des exploitations. On va vers plus d'autonomie des structures pour l'alimentation des chèvres. Et parallèlement, le lait cru sera obligatoire.
C'est ça. Parce qu'alors, pour résumer quand même l'histoire, effectivement, c'est une décision qui n'est pas passée inaperçue chez les amateurs de fromage authentique. Le syndicat de défense de l'appellation d'origine protégée du Chabichou du Poitou a fait adopter par l'INAO, hein, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, en 2018, donc c'est tout frais, il y a un an, un nouveau cahier des charges beaucoup plus exigeant. C'était pas très compliqué parce qu'il faut quand même reconnaître que le Chabichou avait cette particularité de posséder le cahier des charges peut-être bien le plus laxiste ou le plus permissif de France.
C'était en gros un fromage produit avec du lait de mammifère à 2 trayons, quoi.
C'est ça. Non, voilà. Mais c'est exactement ça. Et produit à 80% par des opérateurs industriels, lait pasteurisé autorisé, mais également en silage. Ça, c'est le fourrage fermenté qui, en général, modifie la qualité du lait.
Quelquefois aussi des rations sèches, comme on en a beaucoup parlé il y a quelques années. On en parle beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plutôt de verdissement, de pâturage, d'air d'exercice. Je pense que les choses vont dans le bon sens aujourd'hui, quoi.
Oui.
Quelquefois, il y a des réticences, mais voilà, on va y arriver, je pense.
Une AOP qui veut redorer son image, en refaire un fromage identitaire de qualité, culturellement attaché à son terroir.
Un fromage vivant, parce que le lait cru, c'est un produit transformé ou non. On n'excède pas la chauffe au-delà de 40 degrés. On se rapproche de la température du lait tirant, quoi, du lait issu de l'animal. On ne dénature pas le produit. Le produit garde ses vitamines, garde ses protéines et garde aussi toute sa flore. Et il faut savoir que garder la flore d'un lait, c'est très important. C'est ce qui différencie en fait les laits, les fromages d'une région à une autre. Parce qu'en fait, le lait, la flore du lait, elle va être différente d'un élevage à l'autre. C'est-à-dire que si les chèvres vont au pâturage, si les chèvres sont en bâtiment, voilà, c'est en fait le traceur. La flore du lait, c'est le traceur qui, en fait, arrive à vos papilles. Ça va plutôt vous dire des notes du thym si les chèvres pâturent dans le sud de la France. Et aussi le traceur sur tous les aspects fromagers, fromagerie, c'est-à-dire l'ambiance des fromageries est retracée grâce à la flore, à la vie au vivant du fromage en fait.
Le lait cru est un lait vivant riche d'une diversité bactérienne qui contribue évidemment à la richesse organoleptique, aromatique du fromage. Donc c'est du plaisir à la clé sur le plateau de fromage. Donc c'est tout à l'honneur de cette AOP de modifier. Ils l'ont peut-être fait aussi sous la pression de certains fromagers locaux qui ont râlé, qui refusent de vendre désormais du Chabichou et qui préféraient se tourner précisément vers vos spécialités. On peut dire que le Chabis que vous produisez, c'était un peu la version au lait cru et fermière du Chabichou.
Tout à fait, oui. Nos grands-mères produisaient du chabis dans toutes les maisons il y a une centaine d'années, avant que les coopératives laitières se mettent en place au début du siècle dernier. Chaque ferme produisait dans le Poitou ici. Enfin, moi, j'ai la tante Suzanne de mon père ou mon arrière-grand-mère Léontine sur la Voue produisait du chabis. Entre, je dirais, l'été, le fromage était affiné sous le tilleul à l'ombre, et l'hiver, le garde-manger rejoignait les proximités de la cheminée, quoi.
C'est ça.
Voilà.
Chèvres de race poitevine chez vous, vos animaux évoluent dans des pâturages une grande partie de l'année. Vous leur fournissez également, quand ils ne broutent pas, du fourrage que vous produisez vous-même.
En partie nous-mêmes, mais on a un petit parcellaire et du coup, voilà, on ne peut pas tout produire, mais on achète des fourrages bio le plus près possible de la ferme.
Décrivez-nous juste la forme du chabis.
Alors le chabis, un fromage moyen. Par rapport à tous les autres chèvres français, moyen, cylindrique, quand il est jeune, il fait environ 8 cm, je dirais. C'est un fromage qui fleurit légèrement en surface.
Fleurit, c'est bleu.
Voilà, ça peut être bleu, ça peut devenir un peu rosé quelquefois. Les anciens positionnaient les fromages secs dans des pots de grès, voilà. Et le rouge, en fait, influençait un goût aussi. Voilà ce qu'on peut obtenir aujourd'hui aussi en mettant ces fromages dans des pots de grès. Je dirais, c'est un fromage donc cylindrique avec un...
Alors cylindrique, moi j'ai lu
Tronconique.
Tronconique, ouais.
L'idée un peu d'un cône, il est légèrement penché, mais moules, sans pointe.
On a des moules à chabis, en fait, qui peuvent être tronconiques, effectivement, d'accord, et d'autres, beaucoup moins.
Et selon les affinages, quel goût on est en droit d'attendre?
Alors, on peut aller du moelleux, c'est jamais très crémeux, un chabis, en fait. Hein. Faut aller plutôt vers le motet, son cousin, là.
La chair du chabis reste quand même assez serrée, assez dense.
Voilà, fine et lisse au niveau de la coupe.
Là, on en a différents échantillons de différents affinages. Ça peut aller très loin. Hein. Et d'ailleurs, ça sera bougri un peu.
On peut aller, voilà, oui, le fromage. Je ne sais pas si vous le voyez ici, ce qu'on peut appeler une bonde de barrique. Donc un gros bouchon de Liège. Le fromage, quand il est au stade, ça ravit d'ailleurs les papilles de mes jeunes consommateurs. C'est par là que je commence avec les plus jeunes enfants. C'est formidable. Ils s'éclatent les papilles avec ce fromage très affiné. Ils galopent vers le stand pour goûter quelques miettes de fromage, quoi.
Très bien, vos fromages sont en train de circuler dans le public dont on va déguster. Il y a d'ailleurs un autre fromage dont vous allez nous parler dans un instant. Autre fromage emblématique, évidemment, de la région, c'est le Motet sur feuille. Un fromage tout à fait étonnant, une histoire d'amour entre un fromage et une feuille d'arbre. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais tout de suite, c'est le moment de Dominique Hutin.
On va déguster sur France Inter.
Dominique Hutin, sous les applaudissements.
Quand même, j'écoutais tout à l'heure Mathias Martin, on a beaucoup appris hier soir dans son auberge du centre Poitou. D'abord qu'il y avait un centre Poitou, ce qui suppose qu'il y a un bas Poitou, qui est même un haut Poitou. Et le Poitou, c'est l'une des appellations du département de la Vienne. Heureusement, on ne va pas chez Mathias uniquement pour faire de la géographie. Donc j'ai consigné tout cet atlas géographico-viticole dans un carnet de vignes avec 24 vins de la Vienne, avec les commentaires, les prix, les coordonnées, que j'ai finement intitulé « Vins de la Vienne, advienne que boira ».
Voilà. Oh.
Ça, c'est dit. L'intérêt premier, c'est que vous pouvez évidemment le télécharger librement sur notre site avec toutes ces informations pratiques, mes favoris, etc. Et vous avez trouvé plusieurs figures dans ce casting de vignerons. Il y a les Villemont, les Saint-Landor, les Rôtisseries, les Tours, Beaumont, Isabelle Suire, vous les connaissez certainement. Et puis aussi Frédéric Brochet avec son domaine en Pélidae, qu'on est arrivé hier soir chez Mathias. Une bouteille de son Pinot Noir, le PN1328, un Pinot extrêmement fin, nous attendait sur la table, il était déjà débouché.
Bon.
Voilà, au titre des ambassadeurs locaux de la carte des vins. Et puis on l'a goûté, nous, avec un petit pigeonneau de rien douteux, avec une cuisson rosée parfaite. Un petit pigeonneau qui a beaucoup ému Nadia Chougui, notre attachée de production. Elle voulait l'adopter, le petit pigeonneau. Mais en fait, elle l'a bouffé quand même. Donc je vous ai amené un autre vin de chez Frédéric Brochet.
Ils vont être contents, nos amis végétaliens.
N'est-ce pas? Un 2019, je crois que c'est le premier 2019 que vous pourrez goûter cette année. Voilà, il sort des cuves. C'est un blanc d'hiver, c'est un petit peu une star de la cave. Alors, ce petit blanc 2019, on aurait pu le paxer avec un autre plat qu'on a goûté hier soir, des Saint-Jacques. C'est la pleine saison quand même des Saint-Jacques. Et je dois avouer que hier soir, elles aussi, elles nous ont beaucoup émus. Voilà. Bon, en fait, on les a bouffés quand même aussi, pareil. Donc, à l'autre bout du spectre, on a trouvé dans ce casting de vignerons une autre figure, François Saint-Lô, dont j'ai amené là le blanc Fontenelle, formidable compagnon des Ridevaux aux Morilles, qui nous ont évidemment là aussi beaucoup aimé. Non, je plaisante, il n'y en avait plus. Mais en tout cas, c'est un des plats signatures, on peut le dire comme ça.
Et oui, c'est vrai.
De Mathias.
Le Ridevaux aux Morilles, alors Morilles sèches quand c'est pas la saison, et Morilles fraîches en mai-juin.
C'est ça, avril, mai-juin.
Donc voilà, magnifié par les vins de François Saint-Lô, son blanc Fontenelle. Alors Saint-Lô, forcément, un nom pareil, bah, c'est un gars de la Manche, voilà. Un gars du Cotentin qui a quitté les rives de notre beau département pour venir s'ancrer ici, créer son espace de liberté dans des magnifiques grottes troglodytes dans lesquelles il tient sa cave. Et je vous enjoins vraiment à y aller, c'est à Berry. Berry dans le Poitou, ça sonne un peu bizarrement, mais c'est quand même le nom du bled. On peut pas le dire comme ça parce que c'est vraiment tout petit. Des caves troglodytes. Et donc lui, il a enclenché une démarche de vin naturel sans aucun intrant, tant à la vigne qu'à la vinification. Et cette approche-là nous amène tout naturellement vers le troisième et dernier vin, celui d'Emmanuel Bienvenu, c'est Château Gaillard. Là, c'est une espèce d'ovni, et cette fois, c'est un rouge qui est vinifié en amphore. Et vous l'avez peut-être goûté, il y a un peps formidable, une grande dynamique en bouche. Et pourquoi je dis que c'est un ovni? Parce que ça n'est pas ou un Sauvignon, ou un Pinot Noir, ou un Gamay, ou un Cabernet, ou un Fiégris qui sont les cépages traditionnels de l'appellation au Poitou. Non, c'est un ovni parce que le cépage, c'est le Planté Noir. Et le Planté Noir, c'est un peu particulier dans le sens où c'est un cépage hybride. Mmh. C'est donc un cépage issu de croisements naturels ou provoqués. Ces hybrides, ce sont des cépages dits résistants. Alors, résistants à quoi? Eh bien, aux maladies. Et donc, ils sont ces cépages cultivés sans traitement. Évidemment, cette démarche-là, elle entre en résonance avec l'actualité, les ZNT, les zones de non-traitement, c'est-à-dire le fait de ne pas épandre de pesticides en proximité immédiate des habitations. Alors tout ça, c'est très intéressant, sauf que ces cépages hybrides, lorsqu'on a créé les appellations d'origine contrôlée, les fameuses AOC, eh bien les hybrides ont disparu du cahier des charges et même ont été interdits au prétexte que, un, ils n'étaient pas bons, et que, deux, ils rendaient fous. Alors pour ce qui était de « n'étaient pas bons », je sais que vous avez testé, vous avez pu goûter.
Voilà. Délicieux.
Hein, formidable. Beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, du fruit, de l'allant, du peps, ça c'était intéressant. Alors sur l'autre partie, rendez fous, bah, je vous rappelle que c'est jamais le poison qui tue, c'est la dose. Donc voilà, on avait affaire à des vins ouvriers, des vins paysans, qui étaient quand même consommés en suivant des posologies, comment dire ça diplomatiquement, un peu soutenus. Voilà. Donc ce planté noir, ce cépage qui alimente cette cuvée tout à fait intéressante, ça n'est pas un travail d'apprenti sorcier. Pourquoi ? Parce que c'est un cépage qui était implanté en Poitou. Il est adapté au climat local. Il est porteur d'une acidité naturelle. Et en ça, donc, il apporte de la fraîcheur. Ce qui constitue une des réponses au réchauffement climatique qui donne souvent des vins, ben justement, un peu lourds, qui manquent de fraîcheur. Alors, tous les hybrides ne sont pas des vins de haute couture. Il faut être juste. Et cette chronique ne permettra pas d'épuiser entièrement la question. Donc, pour vous faire un avis, vous allez voir un film. Il s'appelle Vitis Prohibitas, il est sorti le 6 novembre. Vitis Prohibitas, vigne interdite. Et donc ça porte un éclairage sur ces cépages résistants. Alors je vais pas dévoiler l'ensemble du film parce qu'il est en salle, il vit sa vie commerciale en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de dates et vous allez sur notre site, j'ai mis en ligne toutes les dates à travers la France. Pour avoir animé une des projections avec son réalisateur Stéphane Ballet, je vais le résumer la chose en une seule phrase qui est tirée du film. Il n'y a pas de mauvais cépage, il n'y a que des mauvais vignerons. Mmh. Voilà. Et ça, hybride ou pas, c'est universel. Et donc, en conclusion, je vous invite à aller télécharger ce carnet de vignes, c'est gratuit. Voilà, il y a 24 vins sur le site de France Inter. Et comme je suis partageur, je vais faire en sorte que cette belle bouteille de la Vienne ne soit pas seulement la mienne, mais soit aussi la tienne.
Bravo. Dominique, j'aime particulièrement cette cuvée.
Ça s'appelle
Château Gaillard.
109, 2018.
Il y a un toucher de bouche très, c'est du velours tissé fin. C'est vraiment, vraiment très délicat. Et en plus, c'est sans sulfite, vinifié en amphore.
Vous devriez faire de la radio.
Non, mais c'est l'amphore qui apporte cette jolie ouais. Rondeur.
Alors, il y a l'acidité naturelle du cépage, plus effectivement, la matière de l'amphore qui est réputée donner de la dynamique au vin.
Très bien. Toutes les références du gros travail de recherche de Dominique et travail de dégustation à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Dans un instant, attention! Surprise fracassante. Vous voyez ce qu'il y a au pied du plateau dont on va déguster ? Un énorme truc sucré. Eh bien, c'est notre ami Alain Garec qui va le prendre en main dans un instant. Alain Garec qui a repris avec son associé la maison Gulliver. Vous connaissez Gulliver ?
Oui.
Eh bien, on en parle juste après notre pause musicale.
Le broyé du Poitou. Et il y a surtout du beurre parce qu'on n'oublie pas qu'en Poitou-Charentes, le produit maître et phare, c'est le beurre.
Sur France Inter, on va déguster.
Sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Jail Christianity, I never heard the words. Enemies for centuries until there was a third. In the big fine match, guys, it's I was never gonna get ahead, cause I was looking in the mirror. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Diego Garcia, surrounded by the waves. Lonely in the ocean, but in every other way, it was full of love. In the warmest weather feeling. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go.
I didn't have your sympathy, but I knew where to start. Explaining to you patiently that the one who broke my heart would have broken yours. And throw the pieces in the river. Now I got
that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go.
On n'a pas bougé, on va déguster toujours à Poitiers. Merci à vous. On parle cuisine poitevine avec notre chef Mathias Martin, qui est le chef, le cuisinier de l'auberge du Centre Poitou à Coulombiers, à 17 km de Poitiers. On va parler dans un instant des biscuits de Gulliver. On parle également fromage avec un paysan fromager du Poitou qui s'appelle Philippe Massé et qui est en train de vous faire goûter. Il y a une assiette qui circule dans notre public. Un autre fromage, car il fait du chabis. On a compris que c'était la version fermière du chabichou. Mais il fait également un fromage que vous appelez...
Le motet sur feuille.
Vous n'êtes pas le seul à l'appeler comme ça d'ailleurs. Hein.
Ah ben, on est 13 adhérents au syndicat du motet sur feuille.
C'est pas beaucoup quand même.
Pas beaucoup, on est une vingtaine en fabriqués dans la région.
Oui.
Et donc le motet, pour vous le présenter en deux mots, un fromage plat, plutôt moelleux, posé sur feuille de châtaignier ou de platane.
C'est ça qui est original.
Plutôt de châtaignier, les feuilles sont cueillies à cette saison dès les premières gelées, enfilées en guirlande et ensuite posées sous le fromage dès qu'il est bien égoutté. En cours de ressuyage, quoi.
Et évidemment, cette feuille de châtaignier, ce n'est pas que de la décoration. Ça participe à l'affinage, à la palette aromatique de ce fromage.
Bien sûr que non, puisque le motet, en fait, est fleuri en surface. En fait, la feuille emmagasine l'humidité et l'acidité du fromage et rétrocède au cours de l'affinage. Donc, le fromage, en fait, va s'affiner assez lentement avec des notes un peu tanniques, des notes d'acidité, éventuellement. Voilà. Donc, un fromage qui reste assez longtemps moelleux.
On est dans un esprit un peu crémeux. Il y a un autre fromage du côté de la Provence qui également utilise
le banon, par exemple.
La feuille de châtaignier. Mais alors là, on est carrément dans un emmaillotage.
Voilà, tout à fait. Oui.
Là, on est juste sur un fromage crémeux de chèvre posé sur une feuille de châtaignier. Très bien. Quelqu'un a goûté dans notre public ? Bonjour, madame.
Non, monsieur.
Ah, pardon, excusez-moi. Non, je suis ébloui par les... J'ai oublié par les spots. Je suis désolé. Comment vous appelez ?
Hubert. Bonjour.
Bonjour Hubert.
Bravo, hein, excellent le fromage. Est-ce que vous me conseillez de l'utiliser pour une salade de chèvre chaud ?
Ah, bonne question.
C'est-à-dire le passer au four sur un crouton à l'ail, servi avec...
Le motet peut être utilisé effectivement en chèvre chaud. Souvent de fois, les gens vont, pour des raisons pratiques, plus vers la bûche, quoi. Mais le motet, effectivement, à stade, je dirais, 10-15 jours, peut être tout à fait utilisé en chèvre chaud.
Pas le frais, donc ?
Ah non, plutôt pas frais. Il faut déjà qu'il y ait eu ce travail de connexion avec la feuille, quoi.
Bien, merci beaucoup pour vos délicieux fromages, Philippe Massé. On passe à Alain Garec, qui a troqué... Il y a quelque temps, sa robe d'avocat pour un tablier. J'exagère un petit peu parce que vous ne mettez pas les mains à la pâte, mais c'est pas loin
quand
même.
Si, un petit peu quand même.
Racontez-nous votre aventure entrepreneuriale.
Eh ben, mon aventure, effectivement, j'ai été avocat pendant un temps, plutôt à conseiller des entreprises. Et puis, j'ai toujours voulu, depuis très longtemps, passer de l'autre côté de la barrière, avoir moi-même cet esprit d'entreprise. Et venant d'une famille d'agriculteurs, j'ai toujours eu l'agroalimentaire qui me tannait. Donc, à un moment, j'ai franchi le cap avec des associés. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve une belle entreprise ancrée dans son terroir, qui fait des bons produits, qui met pas trop de choses dans ses produits. On a rencontré, quand on faisait nos recherches, Brigitte Arnebouet. Pour ceux qui la connaissent, quand vous la rencontrez, vous en rappelez.
C'est elle qui a fondé Gulliver en 1976. Voilà. Depuis, son entreprise a été classée, il y a d'ailleurs quelques années, en 2016, entreprise du patrimoine vivant.
En fait, elle a créé l'entreprise en 1976. Elle faisait plusieurs produits, dont le broyé, mais aussi du tourteau fromager. Elle a cédé cette partie à un autre groupe. Et puis, elle s'est relancée vraiment en 96, après, dans la fabrication du broyé, avec l'idée de continuer ce beau et bon produit et de le diffuser un petit peu plus largement que dans le Poitou, ce qu'elle a bien réussi à faire. Et aujourd'hui, on continue à faire ce biscuit qui est simple. C'est à la fois simple et compliqué, parce qu'après, il y a toute la façon de le cuire, la façon de le pétrir, les temps de cuisson, les temps de repos. Voilà, donc on essaye de poursuivre ça, sur le Poitou. Mais on diffuse maintenant un petit peu sur le reste de la France et à l'export.
Oui.
On a fait quelques salons et puis sur notre petit stand de 6 mètres carrés, on a réussi à faire un peu de bruit, à présenter cette grande galette. Et puis les gens se sont demandé qui on était, ce qu'on faisait, qu'est-ce que c'était que Made in Poitou, parce qu'on met ça en avant. Made in Poitou, Made in France. Et ben c'est parti, on en envoie en Corée, un petit peu partout.
Vous parliez de 5 ingrédients. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces 5 ingrédients sont ancrés également dans la région du Poitou. Il n'y a que des ingrédients naturels, évidemment pas de conservateurs, pas de colorants.
farine, œuf, beurre, sucre et un peu de sel.
Voilà.
Au maximum, et ça c'est dans l'ADN de l'entreprise, on a sourcé des matières premières locales. Un des principaux ingrédients, c'est la farine. La farine, les blés qu'on utilise sont produits à 5 km de l'entreprise. Notre meunier est à 45 km de l'entreprise. On a avec eux des relations privilégiées. Ils plantent des blés un peu spécifiques parce que, mine de rien, il nous faut des farines un peu spécifiques pour pouvoir travailler la pâte, mm-hmm. arriver ensuite avec les emporte-pièces et que ça tienne et que ça passe dans le four. Donc voilà, donc on essaie de travailler au maximum des produits français, des produits locaux autant que faire se peut. Donc la farine en est un. Le beurre au maximum, les œufs, bien sûr, des œufs de poule élevés en plein air, et voilà, le sel au plus proche. Voilà, on essaye de, en tout cas, d'être le plus naturel possible, de c'est faire ça. Le plus simple possible.
Alors, il y a 5 ingrédients, évidemment, ça on les connaît, mais on ne connaît pas les proportions puisque la recette est tenue secrète. Attention, ouvrez bien vos oreilles. Scoop mondial, Alain Garec nous donne la recette du broyé du Gulliver.
Non, impossible.
Vous rigolez?
Ah non, je rigole pas. Sinon, je peux plus rentrer à l'entreprise. Ils vont me fermer la porte et je vais avoir des gros problèmes.
La recette.
On a tout essayé. Hein. C'est tenu secret.
Impossible.
Bon, alors on va se contenter évidemment de le manger, voire de le broyer. C'est de ce verbe-là que vient le nom.
Exactement. L'histoire vient de là. C'est que le broyé du Poitou, c'est un biscuit qui se partage. C'est un biscuit. Il y a autant de recettes de broyé que de familles dans le Poitou. C'est ce qu'on m'a toujours expliqué. C'était l'occasion des moissons, des anniversaires, des mariages et de tous ces événements familiaux. Et ce biscuit, on le préparait. Et on le broyait avant de le partager. Donc,
ce qu'il faut savoir, on parlait d'une surprise fracassante, c'est qu'on a, je sais que je connais pas son diamètre, à cette espèce de grande galette, on dirait presque un sable breton. Non, non, pardon.
Ah non.
Je n'ai rien dit. non, je plaisante évidemment. Un grand biscuit, une galette d'une épaisseur environ d'1,5 cm. Quel diamètre?
Celle-ci fait 80 cm.
80 cm, imaginez quand même. En plus aux lettres dont va déguster France Inter. Merci beaucoup pour cette attention.
Je vous en prie.
Et celui qui va utiliser son poing, comme le veut la tradition, ou son marteau, qui est derrière le pupitre, ce n'est autre que Dominique Hutin. Il ne fait pas couvrir des bouteilles. Il sait aussi broyer du broyé.
Je crois qu'il y a un sixième ingrédient tenu secret, c'est le muscle.
Absolument, c'est parti. Oh, oh là là, wow. Bravo. Texture sablée. Il y a une petite pointe de sel, j'ai goûté, j'ai trouvé ça absolument délicieux. Est-ce qu'à Poitiers, on est fiers de Gulliver?
Oui.
Belle entreprise, en tout cas,
belle
bravo.
Belle entreprise, grosse pression pour nous, parce qu'on arrive pour reprendre une entreprise qui est bien ancrée, qui est là depuis longtemps. On est entreprise du patrimoine vivant, donc il faut qu'on fasse perdurer ça.
Pour conserver les traditions, parce qu'on sait de temps en temps, malheureusement, exactement. Le business peut un peu
galvauder
certaines traditions.
C'est la promesse qu'on a faite et à Brigitte quand elle nous a voulu l'entreprise, et aux équipes avec qui on travaille tous les jours, de laisser Gulliver, bien entendu, à Poitiers, ça ne bougera jamais. Et on continuera comme ça.
Merci pour cette très belle aventure. Et plein de courage et de chance pour vous dans l'aventure de Gulliver et Stérel Payani.
On va déguster. Sur France Inter.
Comme à mon d'habitude, j'ai commencé en arrivant ici par chercher la femme dans les traditions culinaires de la région.
Oui.
Alors dans mes recherches, j'ai eu beau creuser sur Aliénor d'Aquitaine, qui avait sa cour ici évidemment, celle qui a réussi le tour de force d'être reine de France puis reine d'Angleterre, n'a pas vraiment laissé trace dans les marmites.
Ouais.
Si ce n'est le menu de l'un de ses banquets de mariage, parce qu'elle a eu un premier mariage à Bordeaux avec le roi de France, et celui avec le roi d'Angleterre a eu lieu à Poitiers. Un menu très léger, garanti 100% protéines animales, avec de la langue de baleine et des pâtés en croûte avec des animaux vivants dedans. Donc j'ai choisi
vegan avant l'heure.
Plutôt mes recherches sur le côté sucré. Alors après, évidemment, il n'y a pas que le broyé du Poitou dans la région, il y a aussi la grimole. Alors une sorte de flan clafoutis aux pommes. Il y a aussi les macarons de Montmorillon.
Et oui.
Et le macaroné, une sorte de macaron qu'on trouve en plusieurs tailles.
Alors, qu'on a vu d'ailleurs dans des boulangeries, des pâtisseries locales.
Et puis, il y a aussi la cornuelle des rameaux, un triangle qui évoque la Trinité, ou clairement, on va le dire, le sexe féminin, hein,
ah bon,
et qui va de pair, voire même de pair-reux, avec la pine, dont j'ai pas besoin de préciser la forme, hein, à base de pâte à choux, joyeusement phallique, et bien fourrée de crème, qui se prépare avant Pâques du côté des Charentes. Ce n'est pas la saison, je n'en ai pas porté sur le plateau.
Tant mieux.
Mais cet état des lieux sucrés poitevins ne serait pas complet sans évidemment le tourteau fromager, dont on a déjà beaucoup parlé, complètement cramé dessus, fondant dedans. C'est le côté obscur du gâteau. cachant sous sa croûte volcanique une pâte délicate au fromage de chèvre frais. Qu'on le mange à l'apéro ou en dessert, moi j'ai toujours imaginé qu'un dragon avait soufflé sur ce cheesecake. Parce que le Poitou, c'est un peu comme Game of Thrones en fait, hein. Les dragons, ils ont bien l'air à leur aise dans la région. Le plus connu d'ailleurs, ou d'ailleurs la plus connue, c'est Mélusine évidemment. Lézignan, après tout, c'est qu'à 25 km. Je vais pas vous raconter encore en détail la légende de cette jeune femme qui se transformait à moitié en serpent, le samedi uniquement, et qui, dû à la curiosité de son mari, le fait de rester transformée à jamais en dragon. Féminine jusqu'au bourseau, reste du corps en douille serpentine, c'est comme ça que la décrivait Rabelais dans Pantagruel. Et dans le temps d'ailleurs, on faisait des brioches serpentines qu'on appelait les mélusines, en pâte à foie torsadée avec une tête et des entrelacs.
On en apprend des choses.
Une pâtisserie, hélas, disparue. Parce qu'à Boîtier, le dragon local, évidemment, c'est la... Donc là, Grand Goule, on disait qu'il sortait la nuit pour croquer les jeunes filles. C'était une bonne idée, surtout pour les rester bien enfermées à la maison, hein. Mais c'est sainte Radegonde qui aurait terrassé ce dragon, exactement comme sainte Marthe a dompté la Tarasque à Tarascon en Provence. Mmh. Radegonde, quand même, c'est une reine de France, l'une des femmes de Clotaire, mais surtout la créatrice du premier monastère de femmes en Occident, au VIe siècle. Ce monastère, c'est devenu un musée de la ville de Poitiers, le musée Sainte-Croix, où l'on trouve une fort belle statue en bois polychrome de la Grand Goule.
Elle a bossé, hein?
Ouais, vous allez me dire, mais quel rapport avec la pâtisserie, Estherelle? Radegonde pâtissait-elle en cachette? Faisait-elle des nonnettes? Pas vraiment. Elle préférait les casse-museaux.
Ah, elle nous les a apportés en plus. Vous connaissez aussi les casse-museaux? Ah, non.
Voilà, donc là, la spécialité est disparue. Au moment d'érogation, mais c'est normal, on n'en fait plus. Au moment d'érogation, c'est-à-dire les 3 jours précédant l'ascension, on sortait le dragon pour une petite procession et on lui balançait des casse-museaux à la figure avec des cerises pas encore mûres. Les casse-museaux, c'est des petits gâteaux du rail et on va en retrouver dans d'autres régions de France, jusque dans le Midi-Pyrénées. Par exemple, à Brassac, dans le Tarn, on dit qu'un dragon sorti du fleuve fut chassé par les villageois en lui jetant à la tête ses petits casse-museaux, mais à base de lait de brebis. Si chaque région a ses dragons, les casse-museaux, en fait, semblent mettre tout le monde d'accord. Certains y voient des ancêtres comestibles des confettis. De belle taille tout de même, hein, les confettis. Ou même de tarte à la crème, puisque certaines recettes ont un cœur de fromage un peu coulant qui devait s'étaler à la figure de la personne visée. Est-ce que vous voulez essayer?
Non, décidément,
pointez votre arme ailleurs.
Entre le broyer auquel on a cassé la gueule et le casse-museau, c'est finalement une émission assez agressive, assez violente. Mais en tout cas, c'est délicieux. Est-ce que j'ai le droit de dire que ça a un petit goût de gougère?
Bah en fait, dedans, c'est normalement une base de pâte à choux avec du fromage de chèvre fait qu'on ajoute en bonne quantité. La recette est sur le site, on va déguster.
Les casse-museaux par Estherelle Payani qui nous les a apportés, ils ont fait le voyage depuis Paris ou vous les avez cuisinés dans votre chambre d'hôtel?
Non, je les ai apportés depuis Paris, mais j'ai pris du chèvre du Poitou.
Avec du lait de dragon.
C'est ça. Elle aime les dragons, elle adore les histoires de dragons. Avant de se quitter, on vous précise que notre chef, Mathias Martin, nous a également, histoire de semer la zizanie avec Gulliver, préparé un broyer du Poitou. La recette en un mot?
C'est la même,
c'est le même secret.
Il y a du beurre, il y a des œufs, il y a de la farine, il y a du sucre.
Sauvé.
Et du sel.
Et du sel.
Alors, ce qu'il y a d'incroyable, il paraît qu'il y avait un concours il y a quelques semaines.
Ouais.
Et vous nous disiez, vous étiez membre du jury, donc c'est grand concours du broyer à Poitiers. Il n'y a pas un broyer qui a le goût de son voisin.
Pas un ne se ressemblait.
Voilà.
Vraiment.
Comme quoi,
c'est impressionnant.
Il y a des belles battles en perspective. En tout cas, si vous voulez essayer à la maison, et pas seulement qu'à Poitiers, évidemment, parce qu'on peut le faire avec d'autres matières premières qu'on trouve un peu partout, choisissez-les de qualité, s'il possible. Un broyer à la maison, eh bien, il y a la recette de Mathias Martin. Je l'ai goûté. Je peux vous assurer que c'est goûté et approuvé. Merci à vous, Poitvin, Poitvin, pour votre accueil. Merci beaucoup à la mairie de Poitiers. L'émission a été réalisée par Laurent Thomas, Nadia Chougui à la préparation. Merci aussi aux équipes techniques de Radio France, Benjamin Perru, Laurent César, Tanguy Le Corneau, David Abécassis. On vous signale aussi un salon qui va intéresser mon voisin Dominique Hutin et de nombreux auditeurs. Denatura Vinis, vous connaissez forcément, qui regroupera une trentaine de vignerons naturels dans toute la France, à Saint-Julien, Lars, à 15 km de Poitiers.
Il y a des bas.
Il y a deux camps.
Saint-Julien-Lars.
À Saint-Julien-Lars. 15 km de Poitiers, 14 et 15 décembre, on pourra notamment déguster les vins de quelques figures emblématiques.
Jolie pointure, oui. Joli casting.
Jean-François Nic,
les Foulards Rouges, les Landrons en Muscadet, beaucoup d'autres à découvrir et des valeurs sûres.
Et un jeune vigneron dont j'apprécie beaucoup les vins aussi, c'est Nicolas Renaud, le Clos des Grillons dans le Gard. La semaine prochaine, retour dans nos studios de la Maison de la Radio pour une émission entièrement consacrée à l'univers passionnant des saucisses. Oïs, à dimanche prochain si vous avez encore faim. Salut Poitiers.